France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Le sujet ne nous lâche pas. Depuis que la dette est revenue au centre du village, on ne parle pas de ce budget-là, celui porté jusqu'à hier par François Bayrou. On ne parle pas que de ce budget-là, mais de tous les autres avant lui. Sommes-nous un pays d'injustice fiscale? Comment faire en sorte que l'équité soit la règle en matière de fiscalité? Ça n'est pas seulement une histoire de taxe Zucman, et nous y viendrons forcément, vous nous en parlez déjà dans vos questions. La taxe Zucman, donc un taux plancher d'imposition de 2% sur le patrimoine des très hauts revenus. La gauche l'a mise dans ses calculs, la droite n'en veut pas, elle a déjà expliqué pourquoi, mais elle admet aussi qu'il y a un problème d'équité fiscale en France et qu'il faut réfléchir à des alternatives, et c'est aussi ce que nous essaierons de faire ce soir. La question, elle est forcément dans les négociations autour du futur Premier ministre, elle est aussi au cœur des discussions d'accords de non-censure. Alors comment les corriger, ces inégalités fiscales? Est-ce que oui, d'abord, en proportion, une grande fortune paye nettement moins d'impôts que vous, que moi? Il y a eu, et puis disparu, d'autres suggestions sur la table, prolonger la contribution de solidarité sur les plus hauts revenus, voter cette année, lutter contre la suroptimisation, on verra si c'est possible et comment, taxer les holdings, c'est là que l'argent des plus riches se retrouve en général exempté d'impôts, augmenter l'impôt sur les successions, vaste sujet, l'argument de l'exil fiscal, a semble-t-il été contredit, mais est-ce qu'une taxation des plus riches ferait reculer l'innovation, par exemple? Et puis on va aussi poser la question qui fâche au-delà des 1800 personnes, notamment donc les très très riches concernés par une éventuelle taxe Zucman, faut-il toucher les 7% les plus riches? Je pose la question parce que c'est ce que dit l'Observatoire des inégalités. On pourra d'ailleurs en parler avec eux dans un instant. Ça commence à 44 000 euros, les 7%. Donc c'est moi, c'est vous, le prof d'université en fin de carrière, c'est vous l'ingénieur, c'est vous le patron de PME, c'est vous aussi le retraité aisé peut-être. Justice et équité fiscale, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Jules, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir le téléphone sonne.
On vous écoute, Jules.
Synthèse. Oui, moi je vous appelle parce que je suis apprenti et en fait, du coup, j'ai un foyer fiscal depuis que j'ai 18 ans. Et il s'avère que être apprenti aujourd'hui jusqu'à ses 25 ans, on est payé 1200 euros par semaine malgré 39 heures de travail. Et donc, du coup, c'est très récurrent qu'on fasse des extras. Et je suis taxé, en fait, sur ces extras, je suis imposé, c'est tout à fait normal, je participe à l'état de providence, c'est le contrat social pour lequel on est à peu près tous et tous d'accord, mais je comprends pas qu'en fait les plus riches aujourd'hui se retrouvent moins imposés pour des fortunes ou du moins des sommes qui toutes et tous, en fait, ne nous concernent pas.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Jules, parce que c'est un peu la question qui revient souvent, en fait, et l'interrogation aussi qui revient souvent, en même temps que mon argent, celui de mes impôts, où il va et il fait quoi? Je voudrais qu'on, une fois pour toutes, les choses soient claires autour de cette question. Est-ce que, oui ou non, en proportion, les gens les plus fortunés payent moins d'impôts que notre ami Jules, par exemple? Pour répondre à toutes ces questions et être ensemble jusqu'à 20h autour de la table, il y a Laïla Abdelkay Yacoub. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de plaidoyer justice fiscale et inégalité chez Oxfam France. Il y a Denis Ferrand qui est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur délégué de Rexecode, Institut d'études économiques, c'est vous. On parlera tout à l'heure avec l'Observatoire des inégalités, je l'ai dit. Je vais vous poser la question à tous les deux, peut-être que vos avis divergent. Laïla Abdelkay Yacoub, est-ce que oui ou non, en proportion, Jules, qu'on vient d'entendre, paye plus d'impôts que quelqu'un qui est beaucoup plus riche que lui, voire milliardaire, millionnaire?
Alors, oui, aujourd'hui, il y a un problème qui a été constaté. C'est un dysfonctionnement aujourd'hui de notre système fiscal. Donc, c'est pour ça que tous les débats qu'on doit avoir sur ces questions doivent partir en effet de ce constat. C'est qu'à partir du moment où il y a un dysfonctionnement sur un principe de base, qui est que normalement, en effet, plus on a de moyens dans un système progressif, plus on est censé payer une plus grande part d'impôts. Aujourd'hui, il y a tout un tas de raisons et d'explications et d'exonérations qui existent, parmi lesquelles, notamment le fait que parmi les personnes les plus fortunées, vraiment le haut du haut de la pyramide des richesses, la richesse ne consiste que peu en des revenus comme vous et moi, beaucoup en du patrimoine, la manière de le valoriser, etc. Donc ça, c'est taxé très différemment. Et de fait, aujourd'hui, si vous prenez en compte l'ensemble des impôts et l'ensemble des revenus sous toutes les formes qu'ont les personnes, vous pouvez en effet vous retrouver avec des personnes extrêmement fortunées qui payent moins d'impôts qu'une personne qui touche beaucoup moins. On prend souvent l'exemple d'une infirmière, par exemple. Mmh. C'est le cas notamment dans les études qui ont été faites sur le sujet, au-delà du top 0,1% des plus riches, où là, l'impôt devient ce qu'on appelle s'appelle régressif, si vous prenez en compte l'ensemble des revenus.
Le top 0,1%, est-ce que ce sont globalement les 1800 concernés par la taxe Zucman, ou est-ce que ça va même au-delà du top 0,1%?
Alors ça va même au-delà, mais c'est à partir de là que la régressivité commence.
J'ai, en préparant cette émission, Dini Ferrand, lu ce chiffre-là qui disait que nous payons tous impôts sur le revenu, TVA, taxes diverses, etc., autour de 50% d'impôts de nos revenus. Encore une fois, on parle aussi des taxes, on parle pas seulement évidemment du revenu, et que pour les très riches, on tournait autour de 27%. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble aberrant? Est-ce que c'est un chiffre qui existe réellement?
Alors, il faut justement regarder ce qui fait la richesse, ce qui fait le revenu chez les plus riches. Et il y a pour ceci, les revenus salariaux sur lesquels on va avoir les prélèvements que l'on connaît, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, qui sont importantes, mais il y a aussi des revenus qui tiennent à la propriété du capital. Mmh. Or, ces revenus-là, ils sont frappés non pas directement par la personne, mais ils sont déjà prélevés par l'intermédiaire de l'impôt sur les sociétés, qui doit aussi qui vient prélever d'une certaine manière et qui n'est jamais réintégré dans ces calculs quand on va dire ce 27% que vous évoquez.
Mais du coup, pardon, est-ce que ça veut dire qu'il faut, il faut arrêter de se baser sur l'impôt sur le revenu, en fait, tout simplement, ou est-ce qu'il faut regarder différent et même recalculer, en fait, puisque effectivement les revenus parfois n'ont pas beaucoup de sens chez certains. Donc est-ce que c'est l'ensemble, finalement, qu'on remet dans le shaker pour voir exactement qui est taxé sur quoi,
c'est ce tout que vous à dites fait. Et même parmi les éléments de prélèvement, il faut rajouter les cotisations sociales patronales, parce que celles-ci sont extrêmement progressives. C'est-à-dire qu'on paye très peu de cotisations sociales patronales quand on est sur le bas de la distribution du revenu. En revanche, plus on grimpe dans l'échelle des revenus, plus on en paye. Donc c'est aussi un élément de progressivité qui n'entre jamais dans le calcul que l'on va faire sur l'équité fiscale.
Une chose là-dessus ?
Oui, juste pour préciser, dans les études sur cette question de régressivité, notamment l'étude de l'Institut des politiques publiques, il y a une prise en compte justement de l'impôt sur les sociétés qui, en fait, à ce niveau-là de revenus, est quasiment un des seuls, en effet, qui arrive à atteindre les ultra-riches, donc c'est à prendre en compte. Mais en effet, c'est très compliqué de penser aujourd'hui notre impôt uniquement en pensant aux revenus, c'est très compliqué de penser l'ultra-richesse aujourd'hui en pensant uniquement aux revenus, d'où l'intérêt d'une taxe comme la taxe Zucman ou d'autres choses pensées autour du patrimoine qui prennent en compte votre richesse réelle, en fait, que vous possédez.
C'est ce qu'il faut expliquer aux gens, parce qu'on a vu passer, j'ai vu passer une question tout à l'heure, et qui disait, mais enfin, elle me paraît très injuste, cette taxe Zucman, puisqu'on parle de 2%, la différence, effectivement, c'est qu'on est 2% sur le patrimoine, donc sur l'ensemble de la fortune, un impôt plancher sur l'ensemble de la fortune, ce qui évite de pouvoir jouer, j'y mets des guillemets, ou pas d'ailleurs, sur le revenu. Je voudrais qu'on écoute Jacques, qui est avec nous. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Voilà, je souhaite apporter modestement la relativité sur le monde dans lequel nous vivons. Ma femme et moi avons plus de 6 000 euros de revenus mensuels, un peu moins de 1 million de patrimoine, donc on fait partie des 10% des plus riches français, hein, un peu moins de 3 millions de français, je crois. Bon, alors ok, la taxe Zucman, c'est pour les 0,01% les plus riches, mais si je m'appliquais la taxe Zucman, non pas sur mon patrimoine, mais sur mes revenus mensuels, je paierais 120 euros par mois d'impôt en plus. Mmh. Alors je me pose la question, quel riche parmi les 3 millions qui fait partie des 10% peut nous faire croire qu'il vit à 120 euros près? Donc c'est clair, je suis riche, je suis prêt à payer plus d'impôts par solidarité avec ceux qui saignent en ville à une misère, plus d'impôts pour éviter la suppression des jours fériés, l'augmentation des franchises fiscales, tout le reste, et que la droite et l'extrême droite ne viennent pas me parler des 10 milliards de fraude sociale. Ou alors, il faut qu'elle me parle en même temps des 100 milliards de fraude fiscale. Voilà, pour terminer, je vais vous dire ma pensée affectueuse pour les 1189 personnes tuées le 7 octobre 2023 à leur famille en Israël, mais aussi une pensée très affectueuse pour les 60 000 tués palestiniens à leur famille. Je vous ai parlé de relativité au début de mon intervention. Voilà, je ne serai pas plus long.
Merci beaucoup, merci d'avoir fait court. On a entendu ce que vous disiez, Jacques. Qu'est-ce qu'on pense de la réponse de Jacques, Lélia Abdelkeï Yacoub, qui dit « Moi j'ai calculé, ça fait 120 euros de plus, c'est finalement pas grand-chose ». C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'on y viendra tout à l'heure avec l'Observatoire des inégalités sur cette idée d'étaler l'assiette de ceux qui sont considérés comme riches.
Oui, bien sûr, on pourrait élargir cette assiette.
Jusqu'où vous allez, vous, par exemple, à l'Oxfam ?
Ça dépend sur quel type de mesure. Là, cette mesure-là, elle vise vraiment à répondre à un dysfonctionnement qui est vraiment tout en haut de la pyramide de la richesse, où il y a un truc qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette progressivité qui est la base de la justice fiscale qui est appliquée. En revanche, c'est vrai que vous avez d'autres mesures, comme par exemple un ISF qu'on imaginerait repenser, restaurer, etc., qui n'existe plus, qui là est peut-être un peu moins loin de l'exemple de monsieur, mais qui ne s'appliquerait quand même pas à lui, qui commencerait au-delà des 1 million d'euros de patrimoine. Néanmoins, on ne parle pas des mêmes montants, on ne parle pas de la même nature de mesure. Là, cette mesure-là, son objet, c'est vraiment de réparer une anomalie, en fait, dans notre système actuel, qui n'est même pas vraiment un nouvel impôt. C'est plus s'assurer qu'il y a un minimum assez cohérent de 2% si on prend en compte tous les paramètres.
Ce qui est très étonnant, Denis Ferrand, c'est que quand on lit des choses sur la taxe Zucman, et vous ne me contredirez pas, Leïla Abdelkayyacoub, il y a des chiffres très différents, en fait. Une fourchette qui dit que ça rapporterait entre 10 et 25 milliards. Il y a quand même une sacrée différence entre 10 et 25 milliards. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à faire à trouver ce vrai chiffre, en fait?
Oui, parce qu'il y a, le chiffre, il est calculé de manière assez simple. Vous prenez une base sur laquelle vous
appliquez. Prends une base, ça fait 1800 personnes, on applique ce taux à 2%.
Sur quelle assiette on va appliquer ce taux. Mais est-ce que l'assiette est intangible ou pas? En fait, c'est la fonction de réaction des comportements qu'il faut prendre en compte. Or, vous avez eu une enquête, un travail du CAE, du Conseil d'analyse économique, qui est sorti il y a quelques jours, qui montre que il y a toujours une réaction des assujettis fiscaux à l'augmentation d'une taxe. Ce qui fait que le rendement qui est estimé initialement est que rarement celui qui est atteint. On a des exemples aussi, la Norvège récemment a augmenté de 0,85 à 1,1% une taxe sur la fortune, donc on se dit de 0,85 à 1,1, c'est pas beaucoup.
Effet de au moins 30% moins important de ce qu'ils avaient
C'est même plus que ça, c'est-à-dire que les recettes qui étaient attendues, 150 millions d'euros de cette mesure, ont été en réalité des pertes nettes. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de sorties. Les sorties ont été beaucoup trop importantes pour
C'était exil fiscal,
oui, exil fiscal.
Parce que moi, j'ai l'impression qu'on l'a un peu évacué, cette question de l'exil fiscal, puisqu'il y a eu cette étude qui a été faite et qui dit qu'effectivement, les pertes dues à l'exil fiscal sont marginales et que surtout l'exil fiscal lui-même est marginal. C'est le Centre d'analyse économique qui le dit.
Alors, il y a l'exil fiscal. Alors, il y avait aussi l'exemple du Britannique. Et puis, peut-être que j'aimerais revenir aussi sur quelque chose qui... Il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas, ou plutôt ce qui ne se crée pas. Et en fait, on avait fait un travail au sein de Rexecode, il y a une dizaine d'années, sur l'impact de l'ISF appliqué pendant 30 ans. Mmh. Et en fait, on avait essayé d'estimer ce que représentait en termes d'opportunités perdues pour l'économie, le fait que des entrepreneurs soient partis, pas seulement pour des raisons fiscales, soient partis pour développer de l'activité en dehors du pays. Mmh. Et on arrivait en fait à 45 milliards d'euros de PIB, de richesses créées chaque année dans le pays, qui étaient perdues par rapport à la situation où ces entrepreneurs
Mais
ne seraient pas perdus.
Mais à long terme ou pas ?
À long terme. Mmh. 45 milliards... Mais après, de manière permanente. Vous appliquez 45% de taux de prélèvement obligatoire, qui est le taux que l'on connaît actuellement, à 45 milliards, vous tombez sur les 20 milliards qui sont attendus par la taxe Zucman. Donc c'est aussi des fenêtres d'opportunité qu'il faut apprécier.
On va retourner au standard. Leïla Abdelkayyacoub, pour répondre, je voudrais juste vous signaler, je vous le signale aussi à tous les deux, parce que ça peut écourter les choses, que l'Élysée confirme ce qu'on voit s'afficher sur tous les bandeaux de télévision, que l'annonce du Premier ministre pourrait être imminente. Donc si ça vous tombe sur les genoux, on passera peut-être à autre chose. En attendant votre réponse, Leïla Abdelkayyacoub, et puis on retournera au standard.
Oui, je voudrais quand même répondre un mot sur l'exil fiscal, qui est l'argument principal, et en fait peut-être le seul qu'on peut entendre sur ce sujet, qui est en fait largement exagéré malgré tout. L'étude en effet du Conseil d'analyse économique que vous citiez montre quand même surtout que l'impact à long terme de ces exils est très limité, qu'une hausse de la fiscalité du patrimoine ne provoquerait pas d'exil fiscal massif, et c'est ce qu'ont montré toutes les études de ces dernières années, notamment de France stratégie sur l'ISF, par exemple.
Mais y a pas de
ce qu'on a perdu sur l'ISF, il a été démontré que la suppression de l'ISF aura donc coûté 160 fois plus cher aux contribuables que ce qui était visé au départ pour éviter l'exil fiscal, qui en fait correspondait à des montants bien moindres.
Mais il n'y a pas seulement l'exil fiscal, il y a aussi, est-ce que l'une des conséquences, et alors on parle là de la taxe Zucman, on est vraiment dans un tout petit monde, on parle donc de 1800 personnes, mais si on élargissait cette fourchette-là, est-ce que l'innovation risque d'en pâtir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va innover ailleurs? On n'est pas obligé de s'exiler fiscalement, mais on va innover ailleurs. Est-ce que l'un des risques, c'est que j'ai tant de parts dans une société, j'en ai beaucoup, puisque les plus riches en général ont au moins 10% dans beaucoup de sociétés, c'est ce que disent les chiffres, je les vends. Du coup, si je les vends, c'est par là, ils iront dans un fonds de pension qui sera autre, etc. Est-ce que ce risque-là, il a été calculé ou pas?
Cette innovation ailleurs, c'est précisément le calcul qu'on avait essayé de faire, c'est-à-dire les opportunités qui ont été perdues, et donc en ne créant pas sur le territoire de l'activité, c'est une possibilité d'avoir des recettes qui ne se font pas. Et ce sont des coûts d'opportunité importants, qui sont des emplois qui sont perdus, que l'on ne va pas retrouver. Donc oui, c'est un élément qui est assez peu pris en compte, parce que beaucoup plus difficile à mesurer qu'un exil fiscal. Bah oui, on va avoir une personne qui s'en va, et une base fiscale qui s'atrophie.
Voici Gwen qui nous attend au standard. Bonsoir Gwen.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Gwen.
Bon, bravo déjà pour vos émissions. Je voulais juste témoigner parce que je travaille en banque et donc je vois quotidiennement des clients et voilà qui se soucient souvent de l'impôt. Et en fait, je vois qu'en fait, je constate que beaucoup de clients considèrent l'impôt comme une contravention. Mm-hmm. Et donc, je m'interroge, est-ce qu'on pourrait pas donner un petit peu plus de sens, d'explication, en fait, parce que pourquoi tout gratuit et voilà, et c'est pour nous tous, pour l'État et les fonctionnements, etc. Et je pense que on a l'impression, voilà, l'impôt est souvent considéré comme une contravention, comme une amende, voilà.
Merci donc, beaucoup, merci Gwen pour votre témoignage. Je trouve que le mot est très bien trouvé, en fait. Les gens considèrent que c'est une contravention. On a sur WhatsApp un autre message qui parle notamment des services publics et qui dit mais quel coût cela représente-t-il ? Par quel impôt juste sont-ils financés ? Donc on en revient à un sujet qu'on avait déjà abordé aussi, c'est le fléchage. C'est intéressant qu'on soit à la veille du 10, parce que je me souviens que pendant les gilets jaunes, l'une des questions qui revenait, c'était payer des impôts, oui, contribuer, oui, mais flécher comment ? Est-ce que là, on peut progresser, Denis Ferrand ?
Oui, probablement, et on peut progresser peut-être plus sur l'aspect de la dépense. Est-ce que vous savez dire aujourd'hui ce que coûte l'intervention ? Bah voilà, demain, on tombe malade, on doit se faire hospitaliser. Est-ce qu'on a une idée de ce que cela coûte pour la collectivité ? Et donc, c'est ce qui s'oppose en réalité à vos impôts. Les impôts sont versés dans un grand ensemble, mais les dépenses sont aussi un grand ensemble dont on ne sait pas dire individuellement quels sont les montants qui sont concernés. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand on essaye d'apprécier le caractère plus ou moins progressif ou régressif du système de fiscalité, il faut prendre en compte à la fois l'aspect de fiscalité, où on sait qu'il y a une progressivité des prélèvements, mais également le fait qu'on n'accède pas à la même hauteur aux dépenses publiques, et d'une certaine manière, les dépenses publiques, les services publics qui sont assurés et qui sont à opposer à la fiscalité, c'est aussi un peu le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas ce patrimoine financier.
Elle est à Bette Kayakoub là-dessus, sur cette idée de contravention.
Oui, alors juste un très court point en réponse quand même au point précédent sur la question de couper les investissements,
Les innovations, investissements, vente des parts, etc.
Il faut quand même avoir en tête, bon déjà ce choix en effet, c'est quelque chose qui a été pensé, qui est assez bien expliqué par Gabriel Zucman et qui a été pensé, d'où cette assiette qui est assez restreinte et donc d'où le fait qu'on parle de fortune extrêmement élevée, dont le rendement annuel est en fait en moyenne de plus de 7%, 7,5%. Donc quand vous en récupérez 2%, il y a encore largement de quoi faire en termes d'innovation, d'investissement, tout en ayant une fortune qui continue à croître. Ensuite, sur la question en effet des fléchages et de ce qu'on fait de l'argent, c'est une question je pense qui est en effet très juste, qui a plusieurs explications et pendant. En effet, déjà ça fait des années qu'on nous sert quand même un discours très anti-impôt. On nous présente beaucoup l'impôt comme quelque chose de négatif, qu'il faut baisser. Bon bah quand vous entendez des personnes au pouvoir, les pouvoirs publics vous dire qu'il faudrait baisser et qu'on dépense trop, évidemment au bout d'un moment vous dites bah attendez c'est vrai ça, qu'est-ce qu'on fait de mes impôts si même l'État me dit qu'on dépense trop. Ensuite, donc ça c'est une question vraiment de discours politique qui je pense a participé à abîmer un peu le consentement à l'impôt. Mais ensuite vous avez aussi des choses très concrètes, c'est que quand vous voyez en effet la détérioration visible à l'œil nu des services publics, je pense que tout le monde ici l'a vu, quand on va dans un hôpital, quand on envoie ses enfants à l'école, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui dans notre pays. Bon bah quand vous voyez ça et qu'en face vous ne voyez pas vos impôts baisser mais augmenter, évidemment que ça questionne. D'où la question de où est-ce qu'on prend l'argent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et aussi, les gens ne sont pas naïfs et entendent aussi des choses comme les cadeaux, les grands cadeaux qu'on fait aux grandes entreprises, comme les 211 milliards qui ont été estimés par le Sénat d'aide aux entreprises sans aucune condition, sans s'assurer qu'ensuite il n'y a pas de licenciement, qu'ensuite il y a des contraintes qui sont respectées. Bon, bah ça, c'est quelque chose qui est assez incompréhensible quand ensuite on veut presser les dépenses publiques, encore une fois, au prix de la qualité de nos services publics, qui sont notre principal rempart contre la pauvreté.
Un mot, Denis Ferrand, là-dessus. Effectivement, les services publics et l'incompréhension et la difficulté quand on paye des impôts de se dire bah, je les paye pourquoi ? Ouais. Puisque l'hôpital va si mal, puisque l'école va si mal, puisque etc. Et puis on passerait à une question d'Isa qui est un peu proche.
Il y avait eu un travail très intéressant fait par l'INSEE qui essayait de mesurer la réduction des inégalités qui est permise à la fois par la fiscalité et par la dépense publique. En gros, on réduit par un facteur 3 les inégalités que l'on a avant la redistribution par la fiscalité et on les diminue par un facteur 2 par l'intermédiaire c'est-à-dire de la dépense. Mmh. La dépense avec une s'oriente plutôt vers les moins favorisés, à tel point que quand on essaye de regarder au global le système, eh bien on se rend compte que 57% des ménages sont bénéficiaires nets du système de redistribution. C'est le principe de la solidarité.
Sinon, autant ne pas avoir de dépenses.
Non, mais bien entendu. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir par quel mécanisme ça passe, et c'est notamment la dépense publique qui est importante, et ce que vous venez d'évoquer sur la perception de cette dégradation du système public participe à ce sentiment que j'en ai de moins en moins pour mon argent. C'est moins une affaire de patrimoine et d'inégalité qu'une affaire de est-ce que j'ai un retour ou pas.
Est-ce que je vais vous donner la question ou la remarque d'Isa sur WhatsApp qui dit payer des impôts quand on est cadre moyen, c'est normal. Par contre, quand 50% des Français n'en payent aucun, moi ça me gêne. Quand on ne paye rien, dit-elle, il y a moins de respect, notamment pour les biens publics. Elle parle des dégradations, etc. qu'il peut y avoir. Si tout le monde payait un peu, il y aurait peut-être moins de dépenses à financer par les autres. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens qui disent, ne serait-ce que 1 euro d'impôt solidaire, en quelque sorte, juste pour que tout le monde ait le sentiment que chacun contribue. Beaucoup de questions autour de ça. Qu'est-ce qu'on en dit, Laïla Abdelkayakoum ?
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. En réalité, en fait, c'est déjà le cas. C'est même déjà le cas bien plus largement. Ce n'est pas vrai, c'est un peu un mythe, le fait que la moitié de la population ne paye pas d'impôts. Les personnes qu'on appelle non imposables, en fait, déjà...
C'est l'impôt sur le revenu qui ne paye pas, voilà. Mais effectivement, la TVA, il la paye.
La CSG, quasiment tout le monde la paye, 90% de la population paye la CSG. Non seulement ils la payent, mais en effet, vous avez une question de visibilité, ça c'est une vraie question, mm-hmm. Peut-être qu'il faudrait repenser, c'est une de nos propositions, de nos mesures, de repenser la manière dont on présente et conçoit l'impôt, notamment la visibilisation de la CSG, qu'on se rende compte que c'est une forme d'impôt sur le revenu aujourd'hui. Il faut savoir que c'est des choses qui touchent beaucoup plus, en réalité, les plus pauvres. Mm-hmm. La CSG, par exemple, c'est une part beaucoup plus importante du revenu des 50% des plus pauvres que des 10% les plus riches, et elle rapporte plus aujourd'hui que l'impôt sur le revenu. Mmh. La TVA, c'est la même chose. Elle touche en réalité beaucoup plus les plus modestes que les plus riches, parce que pour les plus modestes, c'est une part beaucoup plus du revenu qui va dans la consommation des choses du quotidien. 97% pour les plus pauvres, contre 72% pour les autres. Donc c'est même un impôt en réalité qui est aujourd'hui régressif, parce qu'elle représente 12,5% pour les plus pauvres, 4,7% pour les plus riches. Donc en réalité, ces gens payent déjà l'impôt, mais en effet, il y a une question de visibilité, de symbole. Donc il y a peut-être quelque chose à repenser sur la forme, mais la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les plus pauvres et l'ensemble de la population payent déjà des impôts assez importants.
Et au fond, on est presque revenu au début de notre conversation, quand on se demandait s'il ne fallait pas remettre dans le shaker impôt sur le revenu, patrimoine, etc. Et ça part de là aussi, puisque effectivement, sur le papier, il y a finalement très peu de gens qui payent de l'impôt sur le revenu par rapport à l'ensemble de la population. Je voudrais accueillir Louis Morin, qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Observatoire des inégalités. Je m'excuse à l'avance, monsieur Morin, si je dois vous interrompre brutalement pour cause de Premier ministre, mais tant qu'il n'est pas là, vous, ce que vous dites, alors vous allez beaucoup plus loin, vous allez faire réfléchir et réagir surtout nos auditeurs, vous dites, c'est pas les 0,1%, c'est pas les 1800 foyers les plus fortunés qu'il faut aller chercher, c'est les 7% les plus riches. Or, 7%, ça commence très loin, hein, ça commence à 3 800 € mensuels, donc c'est en train de parler à beaucoup des gens qui nous écoutent.
Bonsoir, et je pense que je vais vous faire encore plus peur.
Alors, allez-y,
premièrement,
je vous en prie.
Il faut d'abord taxer, évidemment, les très riches, et la taxe Zuckerman va dans le bon sens, quelles que soient les estimations, même la plus faible, hein, 10 milliards d'euros, c'est le budget entier de la police nationale. Mm-hmm. On aurait de quoi renforcer les forces de sécurité. Non seulement je pense qu'il faut taxer les plus riches, mais je pense que effectivement, vous avez raison, il y a une forme de démagogie à concentrer le débat sur les 1%. Comme ça, les 99% du bas, ils se mettent d'accord et puis on va taxer les 1%. Faut le faire, mais c'est très insuffisant. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie de la Constitution française, nous dit il faut que chacun paye en fonction de ses capacité contributive. Et je pense que c'est ça le gros problème, cette espèce de diffusion de l'idée du partisan du moindre effort fiscal, qui est souvent fondée sur des sondages de coin de rue. Si on demande aux Français, voulez-vous payer moins d'impôts, ils vont évidemment dire oui. S'ils veulent plus de policiers, plus de santé et de personnes âgées, ils vont répondre aussi oui. Ouais. Je pense qu'il y a quatre éléments, si on veut élargir le débat, pour comprendre. Et là, qu'est-ce qui fait que l'impôt est consenti ? Le premier, c'est qu'on sait à quoi ça sert. Mm-hmm. C'est-à-dire payer des impôts pour payer des impôts, non, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Mais on sait qu'on a une dette extrêmement importante, on sait qu'on a des personnes âgées en difficulté, des problèmes de santé, assez d'infirmières, assez de docteurs, etc. Deuxièmement, il faut que ça soit bien contrôlé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr que on va pas dépenser n'importe comment et que la Cour des comptes fasse notamment son travail et que ça soit sérieux et que effectivement il y a peut-être une part de dépenses inutiles.
Rapidement, les points 3 ou 4, s'il vous plaît.
C'est la lisibilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair. Et là, on a une espèce de maquis avec des niches fiscales qui fait qu'on y comprend plein. Le quatrième point, c'est la justice, c'est en fonction de ses moyens. Et c'est pas simplement les plus riches. Évidemment, il faut pas taxer les SDF ou les minima sociaux, mais je pense qu'on gagnerait à faire un effort général, réparti, en fonction de nos moyens. Je dis simplement une chose, mais un point de CSG, ça rapporte 15 milliards d'euros, et c'est 25 euros au niveau du salaire moyen.
Réparti, l'humorin, j'entends évidemment ce que vous dites. Et en même temps, effectivement, donc quand on fait, quand on élargit l'assiette et qu'on est à 7%, ça commence relativement tôt. Et donc tôt, ça commence autour de 3 800 euros. Et l'argument, je l'entends d'ici, l'argument précisément, il dit, attendez, je paye déjà des impôts sur le revenu, moi, pour le coup, avec mes 3 800 euros, je paye une TVA qui est plus importante que les autres, puisque je consomme et que donc je paye cette taxe-là. Pareil sur la CSG, et au fond, donc, pour moi, c'est double peine. Quand on est dans cet étiage-là, en fait, c'est-à-dire dans le bas de la fourchette de ces 7%.
C'est exactement pour ça que je dis que chacun doit verser en fonction de ses moyens, pas simplement au niveau de 3 ou 4 000 euros, mais même à des niveaux plus faibles, parce qu'on est face à une dette qui est colossale, notamment, et des besoins sociaux qui sont colossaux, et qu'il faut faire un effort, et que tout le monde se retrousse les manches. Ce que je regrette, c'est un problème de valeur politique. Je pense que les sondages ont un poids énorme dans les choix politiques, et un problème de valeur de toute une classe politique, aussi bien à droite, mais aussi à gauche, qui se concentre sur les 1% du haut, pour dire aux Français, non, il n'y a pas, il va falloir faire un effort général, je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui serait très aisé, s'il a le sentiment que les autres ne veulent pas payer, il ne participera pas au pot commun.
Mouly Morin, merci beaucoup, directeur de l'Observatoire des inégalités. Laïla Abdelkader Yacoub, avant qu'on soit interrompu, ça ne devrait pas tarder. Élargir l'assiette. Donc passer non pas au 1% et au 7%. J'aime bien cette idée que vous pourriez commenter de Mouly Morin qui dit il y a au fond une espèce de flemme en fait, à tout remettre sur le dos de ceux qui sont très 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 riches.
Alors, nous, en fait, il y a certaines mesures qui adressent certains dysfonctionnements spécifiques. Là, cette mesure-là, taxe Zucman ou d'autres qu'on peut porter, le fond, il y a quelque chose là qui ne va pas quand la progressivité est cassée, et notamment le fait que chacun paye en fonction de ses moyens. Le fait qu'il y ait d'autres trous dans la raquette, d'autres niches fiscales, d'autres problèmes qui font que certains qui peuvent avoir, pas être ultra, ultra riches comme ceux dont on parle, mais être à l'aise, mais par contre ne pas payer une part juste d'impôts et que ça doit être corrigé, ça c'est une chose. Après, on ne va pas augmenter du jour au lendemain l'impôt de tout le monde. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ce n'est pas là que situe le problème. Un point de CSG en plus, etc. Pour nous, ce n'est pas là que ça se passe. Par contre, il y a des endroits où il y a des dysfonctionnements. Nous, on parle par exemple beaucoup de la question des droits de succession et spécifiquement de ce qu'on appelle les super héritages, donc au-delà de 13 millions d'euros, en moyenne 13 millions d'euros, où là, via plein de niches fiscales, il y a un paiement qui est très faible, qui est fait. Là, il y a quelque chose à corriger, par exemple. Et ça peut concerner des gens qui ont moins de 100 000, en effet, moins de 100 millions, mais quand même des très grandes fortunes qui ne sont pas celles de monsieur et madame tout le monde.
En parlant d'inégalité, rapidement, Denis Ferrand, on a Thibault qui nous pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il y a des tranches d'impôts et pas une jolie courbe logarithmique? Et bien, vous répondrez plus tard parce que le Premier ministre est donc annoncé et c'est officiel.